Moi, deux lectures. On va commencer par l'évangile de Matthieu, si vous le voulez bien, au chapitre 10. L'évangile de Matthieu, le chapitre 10, et nous lirons les versets 7 et 8. Matthieu, chapitre 10, c'est Jésus qui adresse cette mission à ses disciples, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. On reviendra sur ce programme merveilleux qui nous concerne également. Et dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, et à partir du verset 25, nous l'avons lu déjà dimanche dernier, mais je vous avais dit que nous y reviendrions ce matin, s'agissant de la Tsunamite. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée, et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur ? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas ?» Et Élisée dit à Géasi, « Saint Érin, prends mon bâton dans ta main, et pars. » Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit à l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua cette fois. Et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Tsunamite. » Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre et elle prit son fils et sortit. Amen. Vous le savez, tout ce mois de juin, je vous propose quelques prédications sur le thème général « Aller plus loin avec le Seigneur ». Celui qui s'arrête, dit le proverbe, est frère de celui qui détruit. Donc je ne veux pas m'arrêter, je veux aller plus loin. Je bénis le Seigneur pour le chemin parcouru par sa grâce et grâce à sa fidélité, mais je me dis et je me rappelle que Dieu a encore des bonnes choses à me faire découvrir des progrès à accomplir, des territoires à conquérir. Je veux aller plus loin avec le Seigneur. Et on a vu comment Jésus est venu secourir les deux disciples qui étaient, entre guillemets, en panne sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient bloqués, mais Jésus, avec délicatesse et beaucoup de progressivité et de pédagogie, va s'approcher d'eux, va faire route avec eux, et il va leur expliquer l'Écriture, et puis de quelle manière leurs yeux s'ouvrent, et ils reconnaissent que c'est Jésus ressuscité. À ce moment, Jésus disparaît, mais eux, ils sont transformés, ils sont réparés. Les disciples en panne sont réparés et ils deviennent des proclamateurs embrasés de la résurrection de Jésus. Nous avons vu aussi de quelle manière Dieu nous encouragera toujours à aller plus loin dans le fleuve de Dieu. Le fleuve de Dieu, c'est le Saint-Esprit, hein, c'est le symbole, un symbole du Saint-Esprit. Donc dans le domaine de la vie du Saint-Esprit, je prie pour que nous ayons soif de progresser encore, hein, gloire à Dieu, d'être baptisés dans le Saint-Esprit, et si nous l'avons été un jour, d'être quotidiennement renouvelés, d'apporter des dons spirituels et de grandir en discernement, en intimité avec Dieu, en connaissance du Seigneur. Il faut que notre acuité spirituelle se développe, aller plus loin dans le domaine du Saint-Esprit. Il vous conduira, a dit Jésus, dans toute la vérité. Alléluia. Et puis dimanche dernier, nous avons abordé le sujet « Aller plus loin que nos échecs » ou de ce qui nous semble être un échec. Aller plus loin, ne pas se laisser arrêter par un échec. Et nous avons défini dimanche dernier 5 facteurs d'échec. Après que Jésus ait réuni ses disciples dans Luc chapitre 9, il leur donne force, pouvoir, la puissance de chasser les démons, il les équipe, il les mandate, allez, prêchez, et ils le font, ça commence glorieusement, ils guérissent les malades, ils annoncent la bonne nouvelle, ça c'est les premiers versets, et puis rapidement, dès le verset 11, dans ce long chapitre 9, à 5 reprises, on trouve les disciples en situation d'échec. Ils repoussent la foule que Jésus a accueillie. Ils sont appesantis par le sommeil et il y a là le manque de prière. Ils sont incapables de guérir ce fils lunatique alors que le papa les sollicite et le père dit à Jésus, ils n'ont pas pu le guérir. Échec. Et puis en chemin, ils discutent entre eux de savoir qui est le plus grand. C'est l'orgueil, c'est une situation d'échec. Et puis quand ils apprennent que les Samaritains refusent le droit d'entrer dans leur village au Seigneur, Jacques et Jean disent « Permets-nous de faire descendre le feu du ciel pour leur apprendre à vivre hein, ou à mourir, je ne sais pas. Hein. » Et ils sont en échec. La colère, l'impatience, l'intempérance. Et Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Heureusement que Jésus n'a pas exaucé leur prière, parce que quelque temps plus tard, quand Philippe, l'évangéliste, va visiter la Samarie, il va y avoir un grand réveil, et les Samaritains vont connaître et expérimenter la puissance libératrice du Seigneur. Mais le Seigneur Jésus, à chacune de ces situations, ne va pas condamner ses disciples, mais il va les amener plus loin. Devant la foule qu'ils veulent renvoyer, Jésus dit non, donnez-leur vous-même à manger. Et il les amène plus loin. Et à chaque situation où tu pourras te laisser peut-être arrêter par quelque chose que tu as du mal à accepter, le Seigneur cherchera à te faire aller plus loin, plus loin, plus loin que les échecs. Alors ici, on est revenu sur cette lecture, oui, parce que d'une certaine façon, quand Géasi vient faire le compte-rendu de sa mission à son maître, Élisée, il dit « l'enfant s'est pas réveillé ». C'est un aveu d'échec. « J'ai fait exactement comme tu m'as dit de faire ». Mais l'enfant ne s'est pas réveillé. Et j'aimerais, eh bien, ce matin, développer davantage Un des domaines que nous avons vu dimanche dernier, c'est celui de la prière. La faiblesse d'une vie de prière, la pauvreté d'une vie de prière, les insuffisances qu'il pourrait y avoir dans ma vie de prière, dans ta vie de prière, vont avoir des conséquences négatives. Et le Seigneur, s'il est un domaine où il veut nous faire aller plus loin avec lui, c'est dans le domaine de la prière. J'aimerais prier mieux. J'aimerais prier plus. J'aimerais prier d'une prière dont la teneur est meilleure. J'aimerais prier une prière de laquelle le Seigneur aura épuré toutes sortes d'appréhensions, de doutes, de relativisme. Mais je veux prier la prière de la foi. Amen. La prière de la foi, une foi pure, absolue, établie sur ce que Dieu a dit, en sachant qu'il n'est pas un homme pour mentir, que son nom soit béni. Et dans cet épisode de la résurrection de cet enfant, ce fils de la Tsunamite, qui est venu suite à une promesse de Dieu, hein, j'aimerais voir ensemble le grand défi, frères et sœurs, le grand défi auquel le Seigneur nous appelle, nous qui sommes son Église. Dans Matthieu, nous avons lu la description du mandat que Jésus nous confie. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et tout cela, faites-le gratuitement. Parce que vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Autrement dit, sans une recherche même inconsciente d'une gratification personnelle, l'essentiel, c'est que en abondance, vous donniez sans retenue, cette puissance salvatrice qui émane de la proclamation de l'Évangile. Et vous l'avez remarqué, parmi les œuvres que Jésus nous ordonne d'accomplir, il y a ressusciter les morts. Quel défi, hein ? Quel défi ! Ressusciter les morts. Moi, ça me fait penser au diagnostic de l'apôtre Paul qui, en toute vérité, hein, dit ceci, « Vous étiez morts par vos offenses. » Oui, parce qu'on peut marcher, manger, rire, parler, travailler, on peut chanter, on peut faire des tas de choses, construire des maisons, et cependant être mort. Dans un état de mort spirituelle, parce que la mort, c'est par définition un état de séparation, de coupure. Une branche qui est coupée du tronc, elle est morte. Même si pendant quelques minutes encore, les feuilles resteront vertes, mais venez dans une heure, venez dans trois heures, et vous verrez très bien que ça y est, le processus de la mort est actionné dès l'instant où il y a coupure. Séparation. Or, la Bible nous dit que, en raison du péché, il y a eu une coupure, une séparation. L'homme, sans exception, se retrouve séparé de la source de la vie véritable. Être séparé de Dieu, c'est être séparé de la vie, c'est être coupé. Et donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit « vous étiez morts ». Et pas seulement vous, mais nous aussi, va dire Paul, nous aussi, nous étions de leur nombre, nous étions là, dans nos convoitises, accomplissant les volontés de la chair, etc. Mais écoutez ce que Paul proclame. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » Amen. Dieu nous a rendus à la vie. Et si vous le voulez, vous voulez le savoir, c'est que le grand défi dans lequel le Seigneur est engagé, c'est que des morts ressuscitent. C'est que des hommes, des femmes passent de la mort à la vie. D'ailleurs, il le dit clairement, « Je suis venu pour que mes brebis, elles aient la vie en abondance, la vie éternelle. » Ce n'est pas pour venir nous donner une religion, une morale, un schéma de piété, que sais-je, mais il est venu pour que nous passions de la mort à la vie. Est-ce que tout le monde est vivant ce matin? Est-ce que tout le monde est vivant de la vie du Seigneur? Est-ce que tu es passé un jour de la mort à la vie? Parce que moi je peux avoir papa chrétien et moi-même je peux être mort pour le Seigneur. J'ai besoin moi aussi de passer de la mort à la vie. Je peux connaître le pasteur et même le tutoyer en le tapant sur l'épaule et moi-même être dans mes péchés, je peux être mort. Or Dieu qui même ne veut pas me laisser dans cet état de mort, mais il veut faire triompher la vie dans la mort qui m'enveloppe, qui m'engourdit, qui me retient. C'est le plus, comme on l'a entendu tout à l'heure, c'est le plus grand miracle. Amen. Et je suis heureux de le confirmer. Nous sommes ici des miracles vivants. Et s'il y a quelqu'un qui doute, le Seigneur veut éclairer tes doutes et communiquer la foi à ton cœur. Regarde-nous, tu as devant tes yeux des miracles. Parce que nous étions morts. Mais Dieu nous a rendus à la vie. Le jour où l'évangile nous a été annoncé, un miracle s'est produit, gloire à Dieu. Un miracle s'est produit, c'est que intérieurement nous avons ouvert les yeux comme l'enfant, on va y revenir, et nous sommes passés de la mort à la vie. Et maintenant que nous sommes vivants de la vie de Dieu, il nous envoie pour prêcher et aussi guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, que le Seigneur soit béni. Il y a donc ici le récit de la résurrection de cet enfant et j'aimerais relever quelques éléments car aucun détail dans les Saintes Écritures n'est banal, n'est fortuit. La maman abattue vient trouver l'homme de Dieu. Et par sa posture où elle embrasse ses pieds, Élisée comprend que son cœur est brisé par la douleur. Et Élisée dit, l'Éternel me l'a caché. Et dès que la femme ouvre la bouche, il comprend immédiatement la tragédie qui vient de se passer. Et alors là, je trouve un prophète pressant, urgent. Il apostrophe son serviteur Géasi. Il lui dit, « Saint Airain, prends mon bâton, pars. Et si tu rencontres quelqu'un qui te salue, ne le salue pas. » C'est pas poli, hein, mais c'était cependant l'ordre du Seigneur. À travers la bouche d'Élisée, ne le salue pas, cours et va et mets mon bâton sur le visage de l'enfant. Et c'est ce que le serviteur a fait. Il y a ici déjà plusieurs enseignements que nous pourrions nous appliquer, mes bien-aimés. Il nous faut nous ceindre les reins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire ce geste que Géasi a fait de relever l'ourlet de sa tunique et avec la ceinture d'attacher sa tunique afin de dégager ses pieds et ses genoux car sa tunique et les pans de la tunique auraient entravé sa course. Je comprends déjà ici une première instruction dont Dieu veut m'éclairer. Je veux éliminer de ma course tout ce qui l'entraverait, tout ce qui ralentirait ma course. Il y a certainement dans la vie de chacun et dans ma vie des éléments qui n'ont pas leur place. qui sont des indésirables. Vous trouvez sur votre boîte mail des indésirables. Moi, tous les jours, il faut aller faire le ménage et supprimer les indésirables, les mettre dans la corbeille et vider la corbeille. Allez, oust, dehors. C'est inutile. Il y a plein de trucs, des pubs, plein d'articles, mais qui ne m'intéressent pas. Je les mets dehors de mon système. Eh bien, dans ma vie de serviteur de Dieu, d'enfant de Dieu, il y a certainement des éléments dont Dieu voudrait me débarrasser pour alléger ma course, la rendre plus efficace, pour que mes foulées soient plus ample, plus rapide, parce qu'il y a urgence. J'aimerais dire, et je prie pour que ça ne soit pas qu'une phrase, mais que le Saint-Esprit embrase nos cœurs, nous sommes dans une course contre la montre. Amen. Quelqu'un va se dire, oh là là, à la veille des vacances, il nous prêche ça. Alors que je m'apprêtais à desserrer un peu la ceinture, à mettre mes orteils en éventail et à décompresser un petit peu. Et lui, il nous dit maintenant, on est dans une course contre la montre. Moi, je m'apprêtais à décompresser un peu. Ah voilà, mais c'est pas interdit. Je vais essayer moi aussi de le faire. Donc c'est pas interdit. Mais il y a quelque chose qui doit bouillonner dans ton cœur, en travail ou en congé, le matin ou le soir, en janvier ou en juillet, quelque chose qui doit bouillonner dans notre cœur à tous, c'est qu'il y a un état de mort. Il y avait quelque part dans une maison, dans une chambrette, sur un lit, un enfant inanimé. Il y avait une urgence, il y avait une mission, un mandat. Alors il fallait éliminer tout ce qui pouvait entraver. Et puis, le prophète dit, si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et moi, je dis, c'est pas poli. Oui, mais c'était nécessaire. Ne le salue pas, parce que vous savez, en Orient, quand on se salue, on dit pas, hey, salut, ça va, ouais, ça va, et ciao. Non. En Orient, quand on se salue, c'est les salam alaikum. Et on répond, alaikum salam. Et puis, c'est les salam alek, en fait. C'est les salam alek interminables. On se parle et alors tiens viens, tu vas prendre un petit peu du thé à la menthe avec des makroutes et des trucs au sirop. Assieds-toi, comment ça va? Raconte-moi. Et le petit tac tac tac. Et le soleil baisse et la personne dit mais tu vas pas partir maintenant. Viens, passe la nuit. Demain matin à la fraîche tu reprendras le chemin. Ça c'est les salutations à l'oriental. C'était pas simplement l'affaire de se dire ciao, mais non. C'est pourquoi il y a à prendre conscience d'une chose, c'est que quand il y a urgence, il y a forcément besoin de prendre la ligne droite et non pas de se laisser divaguer par des digressions. Il y a des choses qui sont des digressions. Nous avons une mission et l'adversaire subtil va parfois ne pas aller contre la mission, mais il va nous proposer des digressions. Comment dire, allez, sois sage, prends du temps, etc. Mais la Bible me dit, rachetez le temps. Et puis, il continue et il arrive maintenant dans cette chambre et il obéit et il met le bâton du prophète sur le visage de l'enfant. Et vous savez, je le répète, aucun détail dans les Saintes Écritures n'est fortuit. On peut se dire, mais pourquoi par exemple, alors que Moïse invoque le Seigneur dans Exode 15 en disant « Seigneur, tu vois, ils veulent me lapider parce que l'eau de Mara est impropre à la consommation, ils veulent se révolter. » Et pourquoi Dieu lui dit « Tiens, tu vois ce bois ? » L'Éternel lui montra un bois. « Mais prends ce bois, jette-le dans les eaux amères, elles deviendront douces. » Et pourquoi Dieu utilise ce procédé ? Et pourquoi le même prophète Élisée, vous savez, quand un des fils des prophètes, en faisant le bûcheron, il a le fer de sa hache qui sort et qui plonge dans l'eau, il est désolé. Pourquoi Élisée, après lui avoir dit « Montre-moi où il est tombé le fer. » Ici, alors, on prend un bâton, le bois, et on le jette à l'endroit de la chute. Et le bois a fait surnager le fer. Ça, c'est un miracle. Mais pourquoi passer par le bois? Et puis pourquoi quand les fils des prophètes grimacent et hurlent « La mort est dans le pot, la mort est dans le pot !» Pourquoi Élisée dit « Mais prenez un peu de farine, pourquoi de la farine ?» et jetez dans la soupe infecte, et elle deviendra excellente. Pourquoi de la farine? Mais parce que ce sont tous des symboles de la même glorieuse réalité, parce que tous ces symboles et tous ces gestes mettent en avant l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du calvaire. La farine, c'est le blé qui a été pulvérisé. Jésus a été plongé dans des souffrances qui ont fait de lui cette poudre de farine. Et le bois nous parle de la croix. Et voyez-vous, Élisée a demandé à son serviteur de mettre l'enfant, je dirais, sous l'influence, on pourrait dire, de la croix. Ce bâton, c'est déjà quelque chose qui nous parle de la croix. Et voyez-vous, chaque fois que nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ crucifié, même si tout le monde ne se convertit pas instantanément, nous mettons l'auditoire sous l'influence bénissante du message de l'évangile. Et un jour, Dieu va les visiter. Alléluia ! Il y a eu une visitation, Élisée est arrivé ensuite, et il y a eu la résurrection. Même s'il n'y a pas eu résurrection immédiate, il y a eu un geste très très important de mettre le pauvre malheureux qui était mort au bénéfice du bois. Et c'est ce que je disais aux animateurs de l'école du dimanche. Chaque fois que vous apportez une leçon aux enfants et que vous leur parlez de Jésus, sa personne, son enseignement et son sacrifice à la croix, en fait, vous mettez chaque enfant au bénéfice de l'évangile de Jésus-Christ. Peut-être tous ne se convertiront pas le même dimanche immédiatement, mais il y aura la visitation. Et je donnais une illustration toute récente sur Nîmes. Dimanche dernier, il y a eu un service de baptême, et parmi les 6 baptisés, il y avait deux jeunes entre 28 et 30 ans maintenant, qui étaient des ados de notre époque. Et nous, pendant tous les dimanches, on mettait sur ces jeunes l'évangile, comme le bâton sur le visage de l'enfant. Et pourtant, ils ne se convertissaient pas. Et même pire, puisque tous les deux, à un moment donné, dans la crise de l'adolescence, ont pris carrément la tangente. Ils sont partis carrément à l'opposé de l'évangile. Et ils nous ont rendu leur témoignage, donc, dimanche dernier. Le papa m'a envoyé toutes les séquences vidéo. C'était bouleversant de les écouter. La petite, elle est partie tellement loin du Seigneur Jésus, dans l'alcool, dans les réseaux de drogue, séquestrée pendant 8 jours par un fou furieux. Elle a été miraculeusement extirpée de ce piège où elle aurait pu y rester. Et puis elle rencontre un jeune homme. Puis elle fait pendant 3-4 ans une vie commune comme ça, bien boiteuse. Et son frère de son côté. Et puis, un jour de réunion à l'église, l'un, le frère, comme l'autre, la sœur, reçoivent sans se concerter la même pensée, retourne à l'église. Vous vous rendez compte? Donc elle le fait. Et en arrivant, elle rencontre son frère et elle lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et son frère lui dit « Et toi, qu'est-ce que tu fais là ?» Et bien ce jour-là, en entendant l'évangile, c'est plus qu'Élisée, mais c'est Jésus-Christ, celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie. » qui a visité ces deux jeunes cœurs. Ils se sont repentis, ils ont pleuré sur leurs péchés, ils ont donné leur cœur à Jésus, et dimanche dernier, ils ont rendu leur témoignage. Que le Seigneur soit béni. Il y a le jour de la visitation, où effectivement, de la mort, on passe à la vie. Mais en attendant ce jour, nous devons mettre le bois de la croix sur un maximum de personnes. C'est pourquoi, à tous les niveaux, dans les réunions plénières, dans les clubs, dans les sorties, même ludiques, qu'il y ait à un moment donné ce témoignage de l'amour de Dieu qui s'est manifesté par le sacrifice de Jésus, ça, c'est quelque chose qui va mettre une option sur le cœur de chaque personne qui entendra ce message. Et puis, il y a eu ensuite l'intervention d'Élisée à proprement parler. Et là, il y a l'expression absolument capitale dans tout ce récit, au verset 33. « Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. » C'est court. Mais je pense que ni vous ni moi ne réalisons l'intensité spirituelle qui s'est exprimée. Il pria l'Éternel. J'aimerais vous parler de trois aspects de la prière. Et premièrement, de l'identification dans la prière. L'identification. Il se couche sur l'enfant et il met ses yeux sur les yeux du petit, sa bouche sur sa bouche, ses mains sur ses mains. L'identification. C'est-à-dire que là, il y a une intensité de prière telle qu'Élisée endosse sur lui-même le drame qui vient de se produire. Il y a des prières sublimes tout au long de la Bible. Rappelez-vous le chiffre 9. Daniel 9, Esdras 9, Néhémie 9. Ce sont trois chapitres où vous trouverez des prières extraordinaires. Esdras prie une longue prière solennelle, profonde, d'une teneur bouleversante, où il endosse la situation terriblement affligeante dans laquelle se trouve un peuple plein de compromis. Plein de compromis. Daniel, au chapitre 9, prie. Et on trouve le même esprit, il endosse, il s'identifie. Il endosse la prière et il dit « Nous avons péché, Seigneur !» Ce n'est pas « Ils ont péché !» Même si lui, Daniel, tout jeune, avait résolu de ne pas se souiller, il endosse la prière, s'identifie. Et que le Saint-Esprit m'aide, parce que je reconnais volontiers que j'ai besoin de vivre cette intensité dans la prière. Que le Saint-Esprit m'aide et nous aide lorsque nous prions pour les membres non sauvés de nos familles, de le faire avec une grande intensité. Amen. Grande intensité. Que le Saint-Esprit dépose en nous ce sentiment divin de miséricorde et de compassion. Lorsque tu pries pour tes collègues au travail, mais fais-le dans ta chambre avec une intensité. Réclame-les au Seigneur. Alléluia. Il y a des prières tellement intenses que parfois elles sont même presque devenues cavalières. Quand tu entends un Jacob qui dit à l'ange de l'Éternel, je ne te laisserai pas partir que tu m'aies béni. Ouh, quelle parole! Mais ça exprime ses sentiments. Il a tellement soif d'expérimenter quelque chose de salutaire que ces mots expriment des choses qui sont tellement fortes et belles Quand Abraham négocie avec l'Éternel en disant « s'il y a 50 justes, 45, etc., je ne parlerai plus qu'une dernière fois, s'il n'y en a que 10 », mais quelle implication ! Je crois que nous avons besoin que le Saint-Esprit nous sorte d'une certaine forme de tiédeur, de pratique traditionnaliste, formaliste de la prière. Je parlais, je crois, c'était dimanche dernier, où je parlais même avec nos téléphones, on envoie des mains jointes, vous savez, hein, on souhaite une bénédiction et puis on met des mains jointes, ça c'est la prière, ça veut dire je prie pour toi. Oui, mais on peut envoyer 2, 3, 10 paires de mains jointes, c'est pas ça la prière. La prière, c'est tu rentres dans ta chambre. Amen. Tu as un fardeau, tu as un problème, tu as un défi à relever. Tu as une situation qui ressemblerait à cet enfant qui est inanimé là et dont il faut réclamer qu'il passe de la mort à la vie. Tu entres dans ta chambre et là tu pries, tu pries, tu pries. Alléluia. Tu pries comme Élisée a prié. Et la Bible nous dit qu'il y a eu une première conséquence. Une première conséquence, c'est que la chair de l'enfant s'est réchauffée. Mais ça, c'est simplement physique. C'est au contact d'Élisée, la chair de l'enfant s'est réchauffée. Il n'était pas ressuscité, hein, mais la chair s'est réchauffée. Je crois qu'il y a aussi à comprendre ceci, frères et sœurs, c'est que notre chaleur spirituelle, elle doit déjà apporter un bénéfice à ceux que peut-être nous accueillerons, des personnes viendront, réunion après réunion, avec quelquefois des dispositions de cœur très réfractaires, mais en les aimant, en les accueillant, en leur souriant d'un sourire sincère et en leur apportant une parole, mais vraiment de grâce, hein, ça ne va pas les convertir, mais ça peut réchauffer leur cœur. Amen. Je crois que nous avons ce rôle aussi d'être une église, voyez, qui communique la chaleur de l'amour de Dieu à nos contemporains, à nos contemporains. Je me souviens d'une jeune que j'ai baptisée un jour, et après, lors d'une visite pastorale, elle me disait bien sûr sa joie, hein, d'avoir rencontré le Seigneur, sa vie changée, etc. Mais il y a un moment, elle m'a dit, « Pasteur, j'aimerais quand même vous dire quelque chose. C'est que pendant des mois, quand j'ai fréquenté votre église, j'ai eu tellement de difficultés à me faire accepter dans les cercles d'affinité des chrétiens. » Elle m'a dit, j'ai remarqué rapidement que c'était toujours les mêmes qui, après les réunions, se mettaient en cercle et ils riaient entre eux. Et moi, j'ai essayé plusieurs fois d'entrer dans les cercles, mais j'ai eu beaucoup de difficultés. Ça m'a quand même fait quelque chose dans mon cœur. Parce que je me dis que inconsciemment, au fil des semaines, des mois et des années, ben, on peut être vraiment très très bien à l'intérieur de petits cercles comme ça, mais nous sommes appelés à autre chose. Nous sommes appelés à accueillir et à communiquer la chaleur de l'amour de Jésus autour de nous. Et puis il va, il se promène ici ou là, et il revient et il s'étend à nouveau sur l'enfant. Et la Bible nous dit alors, l'enfant éternua cette fois. Ah, ça, c'est le miracle. L'enfant éternue cette fois. Donc là, il est vivant maintenant. La résurrection, elle est là maintenant, évidente. Sous quelle forme cette résurrection? La première forme, c'est un éternuement à cette reprise. L'éternuement. Au plan physique, quand tu éternues, tu dégages et tu évacues toutes les impuretés, les poussières, des trucs. C'est comme ça qu'on est créé. Il y a dans les parois nasales une ultrasensibilité qui fait que quelquefois même un courant d'air, un petit delta thermique, et ça sensibilise les parois nasales et on réagit et pof, on évacue. Alors, il vaut mieux le faire proprement et en faisant attention dans quelle direction va l'éternuement, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, par définition, un éternuement, c'est un réflexe qui nous débarrasse de tous les mauvais dépôts. Et au plan spirituel, c'est tellement fort. Quand je passe de la mort à la vie, il y a en moi une réaction salutaire qui me purifie et qui me débarrasse de toutes les accumulations de péchés, de mauvaises pratiques, de mauvais plis que j'ai accumulés pendant toutes les années passées. C'est-à-dire que la Bible me dit que celui qui mentait ne mente plus. Le mensonge n'a plus de place dans la vie de quelqu'un qui est passé de la mort à la vie. Il évacue. La duplicité, la diplomatie politicienne, les masques interchangeables, les formules, les tractations, les tortuosités. La Bible nous dit que le cœur de l'homme, il est tortueux. Mais quand je passe de la mort à la vie, j'éternue et je dégage la tortuosité. Ça n'a plus place dans ma vie. Maintenant, eh bien, quand je dis que c'est blanc, eh bien, c'est blanc. Quand je dis que c'est ainsi, c'est pas presque ainsi, mais c'est ainsi. Vous voyez, il y a une épuration. Quand il y a repentance, il y a aussi fruit de la repentance. Amen. Il y a les fruits de la repentance. Et les fruits de la repentance viennent confirmer et conforter l'authenticité de ma repentance et que désormais je suis devenu une nouvelle création. Amen. Un jeune homme un jour se convertit à l'époque, il y a pas mal de temps, où il y avait le service militaire. Et pendant l'année de son service militaire, alors qu'il n'était pas chrétien du tout, il était affecté au stock du matériel. Et en un an de service militaire, il avait mis de côté, dans son garage, des Rangers, des treillis tout neufs, des ceinturons, des pleins d'équipements de l'armée qu'il avait mis pour lui. Hein. Il finit son service militaire, tout va bien, et il entend un jour l'Évangile. Il passe de la mort à la vie et il éternue dans ce sens que il réalise immédiatement que tous les cartons de matériel neuf qu'il a dans son garage, c'est du vol et qu'il lui faut absolument régler ce problème. Et il a obéi au Seigneur. Il a rempli sa voiture de tout ce matériel, il a fait des centaines de kilomètres, et il est remonté à sa caserne, il a demandé un rendez-vous avec le chef de corps, et il a été reçu. Oui, alors c'est pourquoi ? Ben oui, en telle année, j'étais affecté là dans votre caserne, etc. Après mon service militaire, j'ai entendu l'Évangile, je suis devenu un vrai chrétien et je viens réparer tout le matériel volé que j'ai enlevé donc du stock de l'armée et je viens le restituer, voilà. Je viens réparer ma faute. Ben, le colonel, mes amis, quand il a entendu ça... Ces galons sont tombés comme ça, ouais. C'est la première fois. Vous savez, quand il y a une repentance sincère, j'étais mort dans mes offenses, mais maintenant, il m'a rendu à la vie. Alors, ça s'exprime par un éternuement, un rejet de toutes les mauvaises pratiques de jadis, et ça inaugure maintenant une vie de pureté, de transparence, de limpidité à la gloire de Jésus. Alléluia. Et puis je terminerai ce message en disant qu'après les 7 éternuements, la Bible nous dit, il ouvrit les yeux. Il ouvrit les yeux. Donc, il y a une prise de conscience. Son intelligence s'ouvre et il prend conscience de réalités qui lui étaient complètement cachées, étrangères. Et mes frères et mes sœurs, je crois que Dieu veut que nous ouvrions nos yeux, que nous ayons du discernement. Je crois qu'un chrétien, ça devrait être l'être le plus intelligent sur terre. Un chrétien devrait manifester une intelligence parce que ses yeux sont ouverts. Je ne cache pas que quelquefois, nous autres les pasteurs, nous avons eu des frayeurs. Lorsque nous avons observé que tel frère, telle sœur, tel enfant de Dieu, tel couple s'apprêtait à prendre telle décision. Waouh ! Nous avons été saisis de crainte, de frayeur, d'inquiétude, parce que visiblement leurs yeux avaient besoin de s'ouvrir sur les conséquences de leurs choix. Parce que voyez-vous, il y a des choix et il y a les conséquences des choix. Eh bien, que tes choix soient inspirés. Amen. Que tes choix et tes décisions soient inspirés par une intelligence éclairée par le Seigneur. La Bible nous parle de l'aveuglement. Mais la Bible nous dit aussi que Jésus est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Et peut-être quelqu'un a besoin ce matin parmi nous que le Seigneur lui ouvre les yeux. Lui ouvre les yeux pour avoir un discernement. La Bible nous encourage à avoir du discernement. Pour discerner les choses les meilleures. Il faut discerner les choses qui sont mauvaises. On discerne les choses qui sont bonnes. Et on discerne les choses qui sont les meilleures. Plus que bonne. C'est ainsi que Dieu veut nous ouvrir les yeux. Alléluia. Amen.